Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu, il y a quelque temps, la collaboration du jeune à sa propre éducation, et nous avons vu les différents âges de la vie du jeune et ce que l'éducateur doit lui apporter. Nous sommes arrêtés au début de l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence, et il faut maintenant que nous voyions la grande adolescence et le jeune âge adulte, le jeune homme, et notamment le choix d'état de vie. Tout d'abord, l'ouverture au monde. Le jeune adolescent commence à mettre en œuvre les richesses de conviction, de foi qu'il a reçues dans l'enfance. Il développe une charité active. Nous avons vu cela. Et en grandissant, il découvre que sa charité doit s'étendre au-delà de son cercle familial. Il découvre le monde, la politique, le mondialisme, l'Église en tant que société au-delà du cercle restreint de la famille et de la paroisse. Tout ça, c'est important. Il découvre des choses bien plus grandes que lui. Cette découverte est légitime. Et il faut le faire savoir aux jeunes que le milieu de vie normal d'un homme, c'est le monde. L'homme est fait pour vivre dans le monde. Bien sûr, le monde et donc la société doivent répondre au plan de Dieu pour aider l'homme à se sanctifier et surtout à se sauver, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La société n'aide plus les hommes à se sanctifier et à se sauver. Il n'en reste pas moins que le milieu de vie de l'homme, c'est le monde. Il est fait pour cela. Il est fait pour vivre avec les autres hommes et aimer Dieu avec les autres hommes. Et donc cette découverte est légitime. Et il faut faire attention à bien montrer aux jeunes que nous n'avons pas peur du monde, même si le monde est mauvais. Ce n'est pas nouveau que le monde soit mauvais. Il a toujours été blessé. Le monde d'aujourd'hui est nettement plus blessé que le monde d'autrefois. Encore qu'il y eut des périodes de révolte, de profonde révolte, dans lequel le monde était vraiment blessé. Et nous avons vu, je ne sais pas si vous vous le rappelez, dans un sermon non pas sur l'éducation mais sur les anges et les démons, que Dieu a donné le monde aux démons pour qu'ils servent quand même au moins à quelque chose. Ce à quoi servent les démons, c'est à entraîner les hommes à la lutte pour que leur victoire soit plus glorieuse en ayant été entraînés à la lutte que s'il n'y avait pas eu cette lutte. De plus, le monde se fait, le monde chrétien se fait, la chrétienté se fait. Pour que la société revienne à Dieu, il faut que l'homme y travaille. La société chrétienne ne s'est pas faite d'un coup, il a fallu 2 siècles et demi, même un peu plus, presque 3 siècles de persécution, avant que la chrétienté commence tout juste à s'établir. Même au Moyen-Âge, nous voyons bien que les saints travaillent à faire la chrétienté, parce que s'ils n'y travaillaient pas, la chrétienté reculerait et on retomberait dans la décadence. Et c'est ce qui s'est passé à partir de la Renaissance, lorsque les hommes ont prétendu faire le monde en se passant de Dieu. En se passant de l'Église, au début c'était les protestants, et puis très vite en se passant complètement de Dieu. Je vous l'ai dit en commençant cette série de sermons sur l'éducation, Dieu ne permet pas la terrible crise, les terribles épreuves actuelles pour nous demander de refaire une magnifique chrétienté, cela viendra, mais plus tard. Dieu permet les terribles épreuves, comme les persécutions, pour que le triomphe des saints, pour que la sainteté de ceux qui vivent de la foi, comme ont vécu Saint Dominique Savio, Michel Magon, François Bézoukhoux, et puis tous les héritiers de Saint Jean Bosco, que ce triomphe tourne à une très grande gloire de Dieu, d'autant plus grande qu'il sera évident que les choses se sont faites par la grâce de Dieu et non pas par des moyens humains. Tout cela, le grand adolescent le sait. Le petit adolescent le découvre. Il sait qu'il doit sortir de la famille, qu'il doit entrer dans un cadre professionnel, qu'il doit avoir des amis en dehors de la famille, etc. Il commence à se rendre compte qu'il est fait pour le monde et non plus simplement pour sa propre famille, celle de papa et maman. Le grand adolescent découvre la politique, le mondialisme, et le jeune homme voit très bien qu'il est destiné à honorer, louer, servir Dieu dans le cadre du monde et à travailler à faire aimer, louer, servir Dieu par tous ceux auxquels il pourra transmettre la foi et la charité, l'amour de Dieu. Donc je vous disais, cette découverte est légitime et il faut le faire savoir aux jeunes. Nous n'avons pas peur du monde, nous avons une seule peur, c'est de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous dans le monde. Rien que cela, c'est déjà un grand élément de l'éducation chrétienne, être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous dans le monde. Cette découverte du monde doit être nourrie, accompagnée, dirigée, il faut former le jugement. Elle doit être nourrie par l'enseignement, par l'observation, par la pratique, avec toujours comme première référence la foi. La société comme l'homme a été créée pour honorer, louer, servir Dieu et par ce moyen assurer le salut des hommes. Il y a donc un enseignement à donner. Concrètement, il faut parler de politique tout court, de politique chrétienne, de politique internationale, de politique internationale chrétienne, l'Empire, qui a été un essai qui n'a pas très bien marché, mais quand même, d'économie, des problèmes de société, l'euthanasie, le problème du laïcisme, l'éducation laïque, la société laïque, qui en réalité n'est pas laïque, qui est athée, la société athée, montrer qu'il n'est pas normal qu'une société soit athée. Aucun des sujets, des problèmes qu'un homme doit connaître ne doit être en dehors du champ de l'enseignement du jeune homme et du grand adolescent. Bien sûr, en fonction de l'âge, on ne dit pas les mêmes choses à 14 ans, à 16 ans, à 18 et à 25 ans. Cette découverte doit être accompagnée. Même à 21 ans, le jeune homme ne connaît pas encore le monde, il ne peut pas en juger de façon autonome. Il demeure un disciple. Je vous ferai prochainement un sermon sur la différence entre autorité et domination dans l'éducation. Et cette découverte doit non seulement être accompagné, mais dirigé. Parce que le jeune est encore un disciple, et l'éducateur, le père, la mère, le père surtout dans ce cas-là, à cet âge-là, sont des maîtres. Cela ne signifie pas qu'on prend la place du jeune. Nous avons tellement insisté sur l'importance de cultiver sa liberté, son initiative. Diriger, cela veut dire qu'on lui apprend à former son jugement, on lui apprend à apprendre, on lui apprend à découvrir la vérité. Lorsque le maître à l'atelier dirige l'apprenti qui rabote une planche, par exemple, le maître ne tient pas le rabot, mais il dirige l'apprenti pour que celui-ci d'abord apprenne à bien tenir le rabot, puis après ça le tienne comme il convient, et le manipule comme il convient, parce qu'il ne suffit pas de le tenir. Diriger, ce n'est pas faire, c'est faire faire. Et puis, bien évidemment, cette découverte du monde doit faire juger le mal, le bien, la révolution, ce que devrait être la société, ce qu'elle est, ce qu'on peut en faire, ce que Dieu attend de nous. On peut suivre la méthode déductive, partir du plan de Dieu pour juger ce que les hommes en ont fait, ou au contraire la méthode inductive, l'inverse, partir de l'état actuel de la société pour remonter à ce que Dieu avait voulu. Et on en arrive à la conclusion logique, la décision que le jeune doit prendre sur son état de vie, et puis accessoirement à l'état de vie, le métier. Tout d'abord, il faut savoir laisser mûrir le choix d'état de vie. Même ceux qui sont appelés tôt par Dieu à la vie religieuse et au sacerdoce doivent mûrir cet appel. Nous constatons, avec saint Jean Bosco, que des vocations mûries de jeunes hommes, disons entre 22 et 30 ans, ou entre 20 et 30 ans, sont des vocations beaucoup plus stable, profonde, durable, que les vocations d'enthousiasme à 20 à 15 ans. Il y en a à 15 ans qui sont de bonnes vocations. Saint Jean Bosco en a eu. Mais sur la fin de sa vie, il fait un rapport au pape et il dit « J'ai eu beaucoup de vocations avant 20 ans, elles n'étaient pas très stables, il y avait de l'enthousiasme et ça pouvait disparaître assez vite, même s'il y a eu de très bons résultats en nombre non négligeable. Malgré tout, c'est après 20 ans, quand les choses ont bien mûri, que le jeune homme prend sa décision, le jeune homme ou la jeune fille. Je parle plus des garçons parce que je les connais plus et parce que je m'en suis plus occupé. Mais on peut transposer à la jeune fille, bien entendu. Donc c'est après 20 ans que, ayant bien mûri les choses, le jeune homme se rend compte du drame de la société dans laquelle il vit, et que tout jeune bien élevé, je ne parle pas des jeunes qui ont été blessés, profondément blessés, mais comme tout jeune bien élevé est naturellement enthousiaste, naturellement généreux, naturellement désireux de faire le bien et de faire des grands biens, tout naturellement, lorsqu'un jeune, après avoir bien découvert le monde, compris ce qu'était le monde, mais tout naturellement, il a envie d'y faire des grandes choses et de se mettre au service de Dieu dans le monde, dans l'Église, pour faire une chrétienté ou au moins ce qu'on peut réaliser de chrétienté. La deuxième remarque que je voudrais faire sur le choix d'état de vie, c'est que le choix d'état de vie, en réalité, est l'aboutissement de tout le processus d'éducation. Il ne se fait pas en sortant de l'adolescence à 18 ans, ou après le bac, ou après la faculté ou les études, que sais-je. Il est impossible de bien choisir son état de vie si on n'a pas été formé dès le début aux convictions de foi, aux convictions d'apostolat. Lorsque saint Jean Bosco dit que pour devenir saint, il dit cela à saint Dominique Savio, la première chose qu'il lui demande, c'est de se faire apôtre, et donc de travailler au salut du prochain. Saint Dominique Savio va le réaliser à son niveau, à sa manière de jeune de à peine 15 ans, à l'époque il en a même 14. S'il avait vécu, il l'aurait réalisé plus tard à la manière d'un jeune de 20 ans, et puis une fois prêtre, tel qu'un jeune prêtre peut le faire. Mais les étapes du début sont absolument indispensables. Vous me direz, mais comment faire lorsque l'éducation n'a pas été bonne dans les premières années? C'est un vaste sujet que je ne vais pas traiter ici, parce que il faut savoir ce qui a été raté, ce qui a manqué dans l'éducation lorsqu'elle n'était pas bonne. Et même dans les éducations mauvaises, il y a des choses qui sont bonnes. Je pense que l'éducation d'un jeune brigand, fils de brigand, au brigandage, est meilleure que l'éducation de beaucoup de jeunes passés par l'enseignement athée, qui n'a plus aucune conviction, qui ne croit plus en rien, qui n'a plus aucun idéal. Je sais, j'exagère, mais je n'ai pas totalement tort. Un brigand, ça se convertit. Quelqu'un qui a été détruit, bien sûr, la grâce de Dieu est toute puissante, mais on en fait un pénitent. Et on peut en faire un saint pénitent. Mais évidemment, on ne pourra pas en faire un apôtre ou difficilement. Et pour qu'il soit pénitent et un bon pénitent, il faut que ceux qui ont reçu une bonne éducation l'encadrent, l'aident, le soutiennent et sachent même s'imposer à lui lorsqu'il est tenté de dérailler de nouveau. J'ai fait un serment sur la vocation, on peut y revenir, je le résume ici. Donc, lorsque le jeune a été formé à l'apostolat, qu'il a été formé à l'amour du prochain, aux œuvres de miséricorde, lorsqu'il a découvert le monde, mûri le monde, constaté que le milieu de vie c'est le monde, mais qu'il ne veut pas vivre dans le monde mauvais, alors il lui reste à prendre ses décisions d'état de vie, et saint Thomas d'Aquin dit qu'il doit commencer en premier par se poser la question « Puis-je servir Dieu comme prêtre ?» Parce que vous avez beaucoup de prêtres qui auraient fait d'excellents pères de famille. Si on commence en se posant la question « Puis-je servir Dieu en étant père de famille ?» beaucoup vont répondre « Oui », qui auraient pu répondre « Oui » également à la question du sacerdoce. Donc la première question, c'est « Puis-je servir Dieu comme prêtre ?» Lorsque Michel Magon arrive à l'oratoire de Turin, chez Don Bosco, ce petit voyou des rues, attention, hein, qui n'était pas un brigand et qui, en tout cas, n'était pas passé par l'éducation athée, qui n'avait eu ni télé, ni téléphone portable, ni internet, ni électricité qui amollit tout le monde, ni mobilette, etc., ni écouteurs dans les oreilles. Lorsque ce bon petit garçon qui a été rattrapé au moment où il risquait de dérailler, arrive chez Don Bosco, très tôt il dit à Don Bosco, « Si un voyou comme moi pouvait être prêtre, volontiers, Don Bosco, je serais prêtre. » Et du coup, parce qu'il veut être prêtre, il va faire les études qui conviennent. Et ça, c'est dans l'ordre. Alors vous allez me dire, du coup, il y aurait beaucoup de prêtres. Mais bien sûr, il y aurait beaucoup de prêtres. Pas tout le monde, hein. Parce que le bon Dieu n'a pas donné à tout le monde la capacité d'être un prêtre et un bon prêtre. Et il y a une question d'accointance, et tout le monde n'a pas cette accointance, en plus de la capacité à la science, encore qu'il ne faut pas exagérer, puisque le curé d'Ars n'était pas un grand savant, et pourtant il a fait un très bon prêtre. Donc la deuxième question, puis-je servir Dieu comme religieux ? Troisième question, puis-je le servir autrement ? Et si je dois fonder une famille, quelle épouse ou quel époux entre dans les mêmes vues que moi et sera pour l'épouse une bonne auxiliaire et pour l'époux un bon chef de famille ? Le choix du métier se fait de la même manière. Quel métier est possible pour moi afin de faire avancer le règne de Dieu ? Cela élimine tous les métiers directement au service du mondialisme, tous les métiers qui certainement rapportent de l'argent encore que. Cela élimine les métiers directement au service du mondialisme, ceux qui sont indirectement au service du mondialisme, ceux qui sont nourris de l'esprit du mondialisme ou de l'esprit matérialiste. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, mais quel est le critère ? Vous savez, il y a des forums des métiers, et n'a rien de pire, à mon avis, pour les jeunes que ces forums des métiers. Parce que le critère du choix d'un métier, c'est la vertu. Dans quel métier serais-je vertueux ? Honorer, louer, servir Dieu, c'est être vertueux. J'ai pas le temps de vous développer ça, mais on a là aussi été utilitariste, c'est-à-dire qu'on estime que honorer, louer, servir Dieu, c'est obtenir des grands résultats. Eh bien non. Honorer, louer, servir Dieu, c'est pratiquer la vertu. Et lorsque Dieu veut que cette vertu donne des résultats, elle en donne. Lorsqu'il veut qu'elle donne des résultats cachés, ils sont cachés. Et lorsque le bon Dieu permet, dans un mystère, que cela donne peu de résultats apparents, qu'est-ce que cela peut faire? Se poser la question de savoir dans quel métier on pourra le mieux servir Dieu, c'est se poser équivalemment la question « Dans quel métier serais-je le plus vertueux ?» L'idéal des Romains était celui-ci, être tout ensemble agriculteur, juriste et soldat. Agriculteur parce que c'est la condition native de l'homme et c'est là qu'il apprend d'une façon très concrète la vie. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Et Mgr Lefebvre disait « retournez à la terre ». Juriste parce que lorsqu'on a été bien formé, on cherche à mettre de l'ordre dans la société. Et soldat parce que lorsque cette société est attaquée, on la défend et on la protège. Vous voyez, mes bien chers frères, que l'éducation n'est achevée que lorsque le jeune a vraiment pris son choix d'état de vie, et même encore là. S'il doit devenir prêtre, il aura une période de formation au séminaire. S'il doit devenir religieux, il aura une période de noviciat. Pas seulement pour apprendre le métier de prêtre ou le métier de moine ou de religieux, mais pour achever une formation qui doit parvenir à la pleine maturité adulte. Cela va peut-être vous paraître un peu compliqué, vous direz peut-être « il faut que je retienne tout ça, ça me paraît bien difficile ». Non, je vous l'ai dit, revenez à mes sermons du début, on aime le bon Jésus, on fuit le péché véniel, on aime la bonne Sainte Vierge, on veut faire plaisir au bon Dieu, on fait plaisir aux représentants de Dieu. Veux-tu faire plaisir à Don Bosco ? Disait Don Bosco. Oh oui, Don Bosco, eh bien viens m'aider. Veux-tu me faire plaisir ? Dit papa, dit maman. Oh oui, bien sûr, eh bien viens m'aider, je vais m'occuper de pauvres, de malades, tu vas m'accompagner. Cette éducation est rare aujourd'hui, très rare, et pourtant elle est très facile. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.